Bonjour et bienvenue dans Un jour, un audio, un podcast quotidien où je t'invite, moi, humain de la planète Terre, à me suivre dans mes aventures multiples. Allez, c'est parti. Nous sommes le mercredi 27 mars 2019, il est 13h23. Je suis en retard, je cours pour rejoindre une personne que je souhaite vous faire rencontrer et qui s'appelle Sophia. Vous l'avez compris, aujourd'hui, une entrevue. Bonjour Sophia.
Bonjour Gauthier.
C'est très formel, tu sais, on a déjà parlé, puis là on continue. Mais du coup, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast Un jour en audio. Merci beaucoup.
Je t'en prie, ça me fait plaisir.
Et je suis très contente de te recevoir parce qu'en fait, au final, je me rends compte qu'on se connaît peu. On s'est croisés.
On s'est pas mal croisés même.
Mais on se connaît très peu, donc ça va me permettre, moi, de te rencontrer. Et c'est un peu le but, ce truc, de faire rencontrer des gens. Donc, c'est génial. Et en fait, on s'est rencontrés la première fois, je pense, qu'on s'est vu, c'était
à la Vénus Noire,
qui était le bar que je gérais artistiquement à l'époque.
Il y a trois ans.
Et c'était ton premier court-métrage.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait, en gros, on s'est rencontrés parce que tu cherchais un lieu, on avait des amis en commun.
Raphaël.
Okay. Oh, que je vois plus du tout. Raphaël, si tu entends ça, on peut se voir, tu vois. Non mais c'est fou parce que tu vois, les liens, c'est incroyable. Je m'en souvenais plus. Donc tu cherchais un lieu pour tourner, un bar pour tourner.
C'est ça.
Moi, je gérais le bar artistiquement, donc je t'ai prêté le bar. C'était génial d'ailleurs,
c'était
très bon
super.
Tournage.
Ouais, hein. On a fait une soirée en plus de fin de tournage.
Après,
chez toi.
C'était très bien. Donc ça, c'était la première rencontre et on s'est revus récemment pour... C'est ton
deuxième court-métrage que je réalise du coup dans le cadre de mes études à la FEMIS, la première année.
Et j'ai fait de la figuration.
Et donc t'as fait Silhouette.
Depuis longtemps. Mais c'était génial aussi parce que les deux expériences, la première, tu vois, t'étais quand même bien entourée pour un premier cours, tu vois. Et l'équipe super sympa, la comédienne que j'ai recroisée d'ailleurs.
C'est vrai?
Je l'ai croisée dans la rue bêtement. Et d'ailleurs...
Elle t'a reconnue?
Non. J'ai fait un petit sourire, mais tu sais, elle était vraiment concentrée vers Bastille, je l'ai croisée. Et en gros, le premier s'appelait comment? L'éphémère.
Ouais.
Et c'était... Moi, ça m'a... En plus, ça m'avait touché parce que, je sais pas si tu sais, mon grand-père avait... l'Alzheimer, et je pense que il venait de mourir à l'époque, tu vois. Donc, quand on m'avait dit ça et qu'on m'avait expliqué, j'étais comme génial, tu vois.
Ouais.
Et je l'ai vu, parce qu'il est en ligne.
Ouais, je l'ai publié après.
Ouais, mais je l'ai vu, et il est très bien, bravo. Pour un premier cours, mais c'est vrai. C'est vrai que des fois, tu sais, tu fais un premier cours, c'est un peu. Il y a plein d'erreurs.
Et il y en a des erreurs.
Effectivement, il y a des erreurs, tu vois. Mais je pense que le sujet de fond. Tu vois, une personne qui réalise qu'elle a l'Alzheimer et qui essaie de surmonter ça comme elle peut avec, avec la maladie qui prend un peu le dessus, tout ça, c'était très bien fait. Et puis la comédienne est assez top, même le gars aussi. Il s'appelle comment les deux comédiens?
Alors l'autre vieux, c'était Antonio Cauchois.
Antonio, ouais.
Et celui qui joue le rôle du fils, c'était Guillaume Gautrin, que je vois encore d'ailleurs.
D'accord. Et la comédienne?
La comédienne, c'était Astrid Dourman.
Voilà.
Qui n'était pas comédienne à la base. C'était son premier rôle.
Et je l'avais recontactée aussi une fois, je t'avais demandé.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Pour un truc, elle n'avait pas accepté.
Je pense que c'était.
Je ne sais plus, moi non plus. Mais c'est ça, on s'est croisés.
Ouais.
Donc tout ça pour dire qu'on se connaît peu et qu'on s'est rencontrés via le cinéma, ce qui est souvent le cas et assez cool. Et récemment, du coup, la FEMIS. Donc parlons de la FEMIS parce que, bon, la FEMIS, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'école publique française la plus réputée. On pourrait dire en cinéma quoi. Et tu vois, en préparant l'entrevue, j'ai un peu lu, tu vois, sur les critiques et les points positifs, les points négatifs. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux que rentrer dans l'art avec toi pour savoir effectivement est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord. Toi, c'est ta première année.
C'est ma première année. Donc
tu découvres, tu es encore dans la découverte. Déjà, il y a le mythe ou la réalité, tu vas me dire. Le concours, il paraît que c'est phénoménal, monumental, extrêmement dur. C'est quoi le concours de la FEMIS?
Alors, le concours, ça s'étale déjà sur plusieurs mois, sur au moins 5 mois.
D'accord.
De concours où tu as d'abord une première épreuve qui est générale à tous les départements. En fait, chacun a déjà choisi son département, mais la première épreuve est commune. Et donc, on a un dossier d'enquête à réaliser et qui se réfère à 3 mots. On a le choix entre 3 mots. L'année où je suis passée, il y avait répéter, le réseau Et si je ne me trompe pas, c'était l'oubli, je crois. Il y avait trois mots. On en choisit un et on meuble un dossier autour de ce mot, mais très personnel en fait, c'est une enquête.
Et t'as des consignes ou c'est vraiment fait un dossier sur un mot?
C'est vraiment hyper libre. Il n'y a pas vraiment de consignes, si ce n'est faut pas que ce soit universitaire, faut pas que ce soit en rapport forcément avec le cinéma.
Donc faut que ce soit artistique et personnel, quoi.
Ouais. D'accord. Ouais, en gros c'est ça.
T'as choisi quoi toi?
Moi j'ai choisi le réseau.
Le réseau.
Et j'ai fait un dossier sur la construction identitaire à travers le réseau social.
D'accord.
Et j'ai construit une image du réseau social comme miroir en fait, dans lequel on se regarde et il y avait trois parties. Il y avait la construction de l'identité à l'adolescence. Donc comment les adolescents aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux.
Au travers les réseaux,
et comment c'était aussi à mon époque, parce que ça a aussi beaucoup évolué avec Instagram, Snapchat et tout ça. Donc j'avais interviewé une jeune adolescente, une lycéenne, qui m'a parlé de son usage des réseaux.
Et tu l'as mis à l'écrit ou c'était de l'audio?
Ouais, c'est tout par écrit. Tout par écrit. Enfin, je les ai enregistrés en entretien et j'ai tout retranscrit après. Ouais.
Très bien.
Et puis ensuite, une deuxième partie aussi sur... sur comment après le réseau social a une influence sur le corps. Et donc j'ai rencontré c'était aussi quelqu'un que je connaissais de la fac de Paris 3, mais avec qui on échangeait, on n'était pas vraiment amis, mais on avait échangé des cours à l'époque, voilà. Et je voyais que sur les réseaux sociaux il se déguisait beaucoup en fille, et je trouvais ça amusant qu'il se mette autant en scène, et je me suis dit bah écoute, j'ai envie de l'en parler avec lui. Comment ça se fait que tu te représentes comme ça sur les réseaux et pas forcément
dans
la vie?
Et c'était pas à l'époque où tu m'avais justement
des
demandé
performeurs aussi.
Des performeurs, mais
qui font usage de leur corps. Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, écoute, je te remercie, tu l'as peut-être pas vu, mais après que tu m'aies demandé, parce que moi effectivement j'avais fait
ma
perte.
Tu m'en as parlé quand justement j'avais terminé
et oui, et après j'ai commencé le truc, et je te remercie parce que c'était une expérience incroyable que j'ai fait 30 jours de selfie.
Ouais.
Je sais pas si t'en avais vu quelques-unes, j'ai
c'est
adoré
super.
Cette expérience, parce que pour le coup c'était vraiment se dire à quel point en fait tu peux passer de un message en une photo avec ta gueule en fait, tu vois. Bon, après c'était pas des selfies du genre.
Et comment tu t'es mise avec ton corps, quoi? Enfin, qu'est-ce que ton corps
qu'est-ce que ça représente, tu vois? Est-ce que ça peut devenir un objet d'art ou pas, tu vois? C'était vraiment la réflexion, et j'avais fait un petit texte qui disait justement dans ce monde où tout s'écroule, parce que c'est un peu ce que je ressens en tout cas en tant qu'artiste. Moi je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, mais il y a des choses qui restent perpétuelles, en tout cas dans nos générations. C'est vraiment le fait de se prendre en photo par exemple devant un monument, tu vois, comme si tu apportais, ou comme si le monument t'appartenait parce que tu es devant, tu vois. Donc c'est la réflexion, et je te remercie de m'avoir, tu m'as dit tu fais pas machin, et à l'époque je faisais pas, donc puis ça m'a donné cette idée là donc je te remercie. Donc très bien, c'était
non, en plus, ça m'aurait carrément intéressé, mais c'est vrai que c'est
plus
passé
tard.
Juste à côté,
mais c'était donc c'était pour ça que tu cherchais des trucs. Donc ce dossier, tu l'as fait.
Ouais.
Voilà, après, on envoie ce dossier.
Du coup, t'as cette partie écrite d'une quinzaine de pages, et en plus un document audio ou visuel. Donc, moi j'ai fait des photogrammes, c'est une technique, c'est pas de la photo, parce que c'est pas avec de la pellicule ni rien, mais ça se passe dans le labo. Et tu utilises un papier photosensible et des objets, des matériaux, et tu composes une image avec que t'exposes ensuite à la lumière.
Ok, génial.
Du coup, j'ai envoyé ce dossier, et ensuite, quand tu l'envoies, tu passes une épreuve écrite sur table, où là, on se retrouve tous les gens qui passent le concours dans une énorme salle.
On est combien ?
On est 1000, à peu près. Ouais, voilà, 1000 dans la même salle, c'est assez impressionnant. Et on nous passe un extrait, là, c'était une demi-heure. C'était un film qui s'appelle Travolta et moi. Et je connaissais pas non plus à l'époque, et j'ai même pas vu le film en entier aujourd'hui, mais
t'en as pas envie, t'es traumatisée.
Je crois pas. Mais donc t'as cette séquence qui passe, et t'as deux visionnages de la séquence, et t'as 3 heures pour rédiger une analyse sur ça. Et ça peut être
libre aussi.
Et justement, je crois ce qu'il cherchait, mais sans vraiment que ce soit une consigne, mais ce qu'il voulait, que ce soit aussi personnel en fait, que tu te laisses emporter par les images, le son, et que tu fasses pas une analyse formelle.
Donc c'est pas technique, quoi.
C'est
on te
ça.
Demande pas de dire le travelling de ce truc là est bon,
pas du tout.
Enfin tu vois,
pas du tout. Et justement, c'est ce qui me faisait peur, parce que moi j'avais une formation universitaire à l'époque, et du coup j'étais habituée aux analyses très formelles, quoi, très techniques.
Ah oui, tu vois, le code couleur, le machin.
Et c'est ça. Et au même temps, bah forcément ça ressort, enfin c'est
oui, parce que c'est une patte qu'on t'a appris.
Ouais, c'est ça. Et mais finalement, moi il m'a pas mal inspiré cet extrait. Mais pour le coup, j'avais vraiment l'impression que ça s'était très mal passé parce que j'avais pas eu le temps de finir à ce moment-là.
Et t'as rédigé une conclusion quand même vite fait, quoi.
C'était même pas conclu, non, j'avais pas fini.
D'accord.
Pour moi, il était incomplet. Mais en tout cas, je me suis quand même pendant laissé aller à mon imagination, à des interprétations un peu comme ça, quoi.
Qui était personnel, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça, c'est la deuxième étape.
Toujours la première. En fait, la première est composée de deux épreuves parce qu'ensuite, ils font une moyenne des notes des deux, de ces deux épreuves-là.
D'accord, très bien.
Et une fois que tu as passé ça, la deuxième épreuve, c'est une épreuve de département. Du coup, en fonction du département dans lequel tu rentres, et moi, je suis rentrée en production. Du coup,
donc, c'était ton choix. Ah oui, c'est toi qui choisis.
C'est
donc.
Ça, tu t'inscris en passant le concours. Et du coup, je peux parler de l'épreuve de production, qui est, parce que les autres, je les ai pas faites. Mais là, c'était en trois parties aussi, qui composent cette deuxième épreuve. T'en as une qui est un autre dossier à rédiger chez soi sur la question, une question de production sur le cinéma en général. C'était comment, dans quelques années, va-t-on produire un film pour Netflix ? Quelles seront les différences avec produire un film pour la salle de cinéma ? Donc, il fallait faire un dossier.
Avec les trucs de CNC, enfin
tout ce qui se passe en ce moment en plus.
Et là, t'as combien de temps ?
Et là, on a 2 semaines pour le préparer.
Ah oui, donc ouais. En vrai, tu peux faire des recherches, tu peux rencontrer des chercheurs, enfin tu peux vraiment...
Ouais, ouais. Le but, c'est que ce soit une réflexion sur comment nous, on se projette aussi
et
dans
encore
ce
personnel.
Milieu, quoi.
Ouais.
C'est ça. Donc, à partir de trucs qu'on connaît ou qu'on apprend...
Bien sûr.
Et puis, et ensuite, un autre écrit sur table où on te donne 4 synopsis. Et tu choisis un synopsis, celui qui te plaît, et tu montes un projet de film que t'aimerais à partir de ce synopsis. Du coup, moi, j'ai choisi le synopsis d'un film assez social sur une migrante qui arrive en Europe. Et j'en ai fait un thriller en huis clos où j'ai choisi un...
Donc tu décides de le développer, quoi.
C'est ça,
d'accord.
Tu développes le projet. Tu choisis un réalisateur, des comédiens, où est-ce que t'aimerais le tourner, comment tu le financerais.
Et ça, c'est sur table, donc il faut que tu...
Ouais,
tu...
t'as tout ça, t'as 2-3 heures aussi pour rédiger ça.
Ok, génial. Et donc ça, c'est la deuxième étape.
Deuxième, avec un grand oral où tu présentes ces deux écrits, en fait.
Oui, d'accord.
Donc justement, donc, t'en parles. Eux, ils l'ont lu.
D'accord.
Et puis...
ils posent des questions ou...
C'est ça.
D'accord. Ouais.
Ils posent... Ben, le dossier écrit, tu le présentes. Et puis ensuite, ils te posent des questions et puis tu peux parfaitement réagir. Enfin, moi, a posteriori, je me suis dit, bah, j'ai dit ça dans mon dossier, mais finalement, maintenant, je pense que plutôt...
C'était pas le bon choix.
Ouais. Ouais, tu peux parfaitement revenir sur ta décision.
D'accord, très bien.
Donc deuxième épreuve, et puis la troisième épreuve, du coup, c'est le grand oral. Donc là, tu te retrouves, c'est une seule étape, mais tu te retrouves devant un jury de 7 personnes qui représentent chacun des départements de l'école. Du coup, un producteur, une scénariste, un chef opérateur, enfin tout le monde est là, et puis là, ils posent des questions, ça varie en fonction des candidats, bien sûr, mais ils posent des questions sur le dossier d'enquête que t'as fait, sur... on avait aussi
sur
un premier...
toutes les étapes.
C'est ça, on avait aussi un écrit, une note autobiographique à rendre. Au début, donc il te pose vachement de questions aussi sur ça en fait, sur toi,
qui
ton vécu, ton parcours. Donc vraiment, c'est oral de motivation quoi, en général. Et voilà.
Bah, quand tu me dis ça, en vrai, je pense que les gens qui disent que c'est extrêmement dur sont un peu frustrés parce qu'effectivement, ils en gardent combien sur les 1000 ?
Bah,
par département.
Par département, c'est 6.
Voilà, donc effectivement, ça fait énormément de personnes frustrées par ce type de truc. Mais quand. Enfin. Alors après, je sais pas, je l'ai pas passé, hein. Je le passerai peut-être un jour pour le plaisir de passer, tu vois. Mais quand tu me dis ça, je me dis, en fait, c'est toi et ta chance, toi et ton inspiration du moment.
C'est hyper subjectif aussi.
Et puis c'est qui t'examine.
Oui,
donc,
c'est ça.
Donc
on a tous des examinateurs très différents.
Voilà. Ouais. J'ai l'impression que c'est un concours comme tous les concours injustes, parce que c'est un instant T, un moment de ta vie, et voilà.
Bien sûr.
Mais en même temps, ça a pas l'air... Ça a l'air... Ça demande énormément de travail, de ce que tu m'en dis.
Ouais.
Parce qu'en plus, il y a la pression de se dire, je vais peut-être rentrer à la FEMIS. Mais en soi, j'ai pas l'impression. Parce que moi, on me disait, c'est culture générale, il faut connaître plein de trucs.
Bah, pas forcément. Enfin, après, ça se doit jouer, parce que forcément, dans le dossier, il y a des choses que tu connais, que tu ressens. Mais enfin, t'as pas à étaler ta culture.
Mais t'as pas l'impression d'être une élite plus que quelqu'un d'autre qui fait du ciné.
Non, pour le coup, ça a désacralisé un peu. Enfin, le fait que je sois rentrée, ça m'a ça a un peu démystifié l'idée que j'avais.
Et t'y croyais ?
Pas trop, non, pas du tout même.
Et c'était un objectif de vie ou pas du tout ?
Ouais. En fait, depuis le lycée, je voulais y rentrer. Après, en entrant à la fac, quand t'arrives à la fac et qu'on est 10 millions et que les profs te disent alors qui veut rentrer à la FEMIS, c'est que tout le monde lève la main. Et qu'ils te disent, bah, personne n'ira. Je m'étais un peu fait à l'idée que bah c'était mort et que je le tentais, mais que j'avais plein d'autres possibilités pour réussir dans le cinéma, quoi. C'était pas la seule option. Et puis
Et c'était la production toujours?
au début, c'était la réalisation. Et depuis quelques années, j'ai choisi de rentrer dans le département de production, mais sans pour autant renier la réal, parce que j'aime beaucoup ça. Et je continue à écrire aussi, j'aime beaucoup. Donc,
Ouais.
enfin, pour moi, c'est pas
Tu
un
te
dissociable.
spécialises, mais...
En fait, je voulais rentrer en production parce que c'est beaucoup plus concret, enfin, dans l'apprentissage, je veux dire. Du coup, alors que la réalisation, je sais que c'est des rencontres, c'est de l'inspiration, c'est très personnel aussi. Donc, enfin, les deux se combinent, évidemment, on apprend les
Ça
deux.
te rassurait, ça te
Mais
structurait, j'imagine,
moi, ce que
peut-être.
j'aimais, c'est vraiment accompagner les auteurs, des auteurs différents, des artistes différents.
Bien sûr.
Donc, je voulais rentrer en production, mais je sais que je vais encore réaliser. Donc,
Ouais, c'est
voilà,
génial.
c'est les deux.
C'est génial. Mais en tout cas, moi, quand j'ai assisté à ton... Bon, tu connais peut-être pas mon parcours de comédien, mais j'ai commencé très
Tu
tôt
m'en
au
avais un peu
Québec,
parlé.
voilà.
Ah, au Québec, ça, je savais
Ouais,
pas.
j'ai
D'accord.
vécu 8 ans là-bas.
Ah ouais,
Et
ok.
j'ai commencé, en fait, j'avais 13 ans dans des très grosses séries
Ouais.
québécoises, tu vois.
Ok.
Avec les séries là-bas sont quand même avec des budgets assez conséquents
Ouais.
comparés à ce qui peut se faire ici, quoi. Et donc de grands réalisateurs et tout. Et je t'avoue que sur ton tournage, j'ai retrouvé le dernier, hein, la Fémis. Bon, parce qu'il y avait des profs présents aussi, j'ai
Ouais.
l'impression.
Ouais, très intéressant.
Et j'ai retrouvé une atmosphère de travail qui était proche, en fait, de ce qui se fait de mieux, je trouve, en tant que pro. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une structure, c'est rassurant, que ce soit pour les comédiens, pour l'équipe technique, pour tout le monde. Et c'est souvent pas le cas dans les trucs, dans les autres écoles. Enfin, moi, je sais, j'en ai fait quelques-uns depuis que je suis sur Paris, tu vois, la Fleck, enfin, l'ESRA, enfin, tous ces
Ouais.
trucs-là. Et c'est pas mauvais, c'est plus qu'ils sont plus livrés à eux-mêmes. Et
Ok.
qu'effectivement, tu sens, y a moins de structure, c'est moins pro, en fait. C'est-à-dire que même les feuilles d'appel, tu sens qu'il y a plein d'erreurs et tout ça, et c'est
Ouais.
pas grave, tu vois. Mais là, je trouvais vraiment que vous étiez dans des conditions qui étaient optimales. En tout cas, tu avais l'impression d'être dans un long, quoi, tu vois.
Ok.
Donc, moi, je me suis dit, effectivement, d'un œil extérieur, tu dis, ils sont bien préparés. Et toi, est-ce que tu sens, là, donc, c'est que ta première année, mais est-ce que tu sens que ça te prépare réellement à un milieu professionnel à la suite, quoi?
Bah complètement, parce que du coup on est vraiment encadré, c'est des intervenants, c'est pas vraiment des profs, mais des intervenants,
Qui
des
ont une
professionnels de
actualité.
l'extérieur, c'est ça, qui viennent nous encadrer. Et donc c'est vrai qu'on est suivi par nos responsables de département aussi. Et par exemple, rien que dans l'écriture du scénario, on a un intervenant qui nous voit presque chaque semaine pour nous aider à écrire. Donc on n'est jamais seul en fait face à nous-mêmes. Et puis entre nous aussi étudiants, on a tous des parcours très différents et même des niveaux techniques qui sont très différents en fonction des
Ouais.
parcours. Donc on s'apporte aussi entre nous chacun des choses. Et ce qu'ils aiment aussi, c'est que c'est l'idée que dans quelques années, on travaillera ensemble.
Tous
Donc
ensemble.
les équipes, c'est vraiment c'est fait pour qu'on se rencontre artistiquement, humainement.
Mais c'est ça aussi qui est un peu critiqué, tu vois, qui est un peu critiqué de la famille, c'est qu'on dit qu'en gros, c'est une famille du cinéma mourant. Enfin, moi, j'ai lu des trucs complètement horribles. Ben, après, je sais pas, tu vois, j'y suis pas, mais j'ai lu des trucs du genre... C'est le cinéma français par excellence, l'entre-soi mourant avec aucune créativité, dans le sens qu'on vous forme à faire des films français de base. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que t'as l'impression que
Bah,
c'est de la connerie?
moi je suis pas vraiment d'accord. Après, je sais que bah, forcément il y a de tout en fait dans le cinéma, mais c'est ce qui ressort le plus et malheureusement c'est ce que les gens retiennent. Mais c'est les films français un peu chiants, voilà. Mais il y a énormément d'auteurs qui se démarquent, qui en sortent. J'ai vu les films de l'année dernière, t'en as pour le
Et
coup,
c'est pas le cas.
tu te dis pas du tout c'est la fémis. Et pourtant, enfin, ça c'était l'année dernière par exemple, et cette année j'ai revu un film, bah, j'étais au Festival de Clermont. Et j'ai vu un film, bah, c'était signé La Fémis, et typiquement, j'ai pas du tout aimé, c'était hyper long, hyper chiant, ça n'avait...
C'était film d'auteur un peu
C'est ça.
cliché de tout ce
Et
qu'on
donc,
veut
à la fin de la
pas.
projection, tout le monde est genre, ah, encore un film de La Fémis, c'est trop chiant. Alors que, enfin, à côté, il y a des films qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus
C'est
osés.
peut-être ceux qui sont publicités qui représentent pas en fait la réalité de ce qu'est la Fémis, même si
Ouais.
c'est vrai que c'est un entre-soi, c'est tout, vous êtes très peu nombreux, donc forcément ça crée
Oui,
une petite
aussi, on
communauté.
s'influence entre
Voilà.
nous, oui, c'est sûr.
Mais c'est la réalité, c'est qu'il y a quand même de la pluralité même au
Ouais,
sein
c'est
de vos
varié.
équipes.
Ouais.
Bon.
Bah là, rien qu'entre nous, dans nos équipes, on a tous des univers très différents. même en, dans chaque département, en fait, je sais qu'entre producteurs, on est 6, on a tous des envies très très différentes de cinéma, et pourtant, on va quand même se compléter, s'apprendre des choses, essayer des choses ensemble, quoi.
Bon, ben, ça me rassure, je veux dire, okay. Ah, la féministe. Non, mais c'est vrai, parce que moi, ça a toujours été quand même... pas d'y rentrer, tu vois, mais je me dis waouh, c'est beau, parce qu'on est quand même en France, et quand même, pour moi, tu vois, qui ai vécu au Québec et qui suis revenu à la base pour quelques jours, quelques mois, et qui y reste, parce qu'effectivement, je trouve que même si c'est pas facile, même si la mentalité, tu vois, ce que tu m'as dit de tes professeurs, moi, ça m'ahuri, tu vois, quand t'entends qu'ils sont capables de dire à un amphi, ah, mais il y en a aucun d'entre vous qui rentrera. C'est tellement, mais c'est très français aussi, tu vois. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus différent. On va te dire yes you can, alors qu'ils y croient pas vraiment, tu vois. Ils savent très bien que ça va être compliqué. Mais ici, on va toujours te dire ça va être compliqué ou tu n'y arriveras pas.
Ouais.
Et je trouve ça, moi je suis hyper heureux pour toi, honnêtement, même si on n'est pas meilleurs amis, mais je suis hyper content, tu vois. Je me suis dit putain, ça arrive pas qu'aux autres, tu vois. Et il suffit de le tenter et d'arrêter de se dire bah ouais, forcément qu'il y a une chance que tu n'y arrives pas. Mais la preuve en est que t'as essayé et t'y es.
Ouais.
Et tu regrettes rien.
Ouais, c'est clair.
C'est génial. Et comme on a parlé cinéma, mais je m'en doutais que ça allait parler cinéma. C'était un peu sûr, vu que c'est ce qui nous lie. Une question, tu m'y réponds. Quand on rentre dans la production, qui est quand même un milieu majoritairement masculin, de toute façon, le milieu du cinéma, en tout cas, en tout général, ce qui est technique, c'est majoritairement masculin. Et on a beaucoup parlé avec le mouvement MeToo, Time's Up, bon, tout ça, des quotas.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire 50-50, par exemple, de scénarios produits par le CNC qui soient hommes et femmes, enfin, tous ces trucs-là. T'en penses quoi? Je te dirai mon avis après si tu veux, mais toi, en tant que. Je déteste réduire la personne au fait qu'elle soit une femme, mais bon, toi, en tant qu'une femme qui va bosser dans ce milieu, en tout cas, je te le souhaite. Tu penses que c'est une bonne chose, t'en sais rien.
Qu'il y ait des quotas, tu veux dire?
Que ce soit 50-50, la parité, quoi.
Rien qu'entrant la Fémis, ils ont aussi une forme de quota, mais extrêmement. En passant le concours, on sait que t'as la moitié de chance, tes chances sont seulement face aux femmes. Tu vois, je sais qu'en rentrant,
quand j'étais en compétition avec les femmes, quoi.
Bah, en fait, dans le sens où en passant le concours à la dernière épreuve, on était 10 et il y avait 5 mecs et 5 filles. Et bah, je savais que j'étais
contre les
5 filles parce qu'ils voulaient exactement 3 mecs, 3 filles. Et finalement, on n'est que 2 filles, mais ils tiennent vraiment à cette parité. Et du coup, justement, moi j'étais un peu. Je me questionnais en début d'année en rentrant et je me disais, est-ce qu'on m'a pris aussi parce que je suis une fille et que peut-être qu'il y avait un mec qui était mieux que moi, mais malheureusement, ils ont pris deux autres mecs, et donc il fallait une fille, tu vois. Des questions comme ça, ça questionne, quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est nécessaire aussi qu'on impose dans une certaine mesure cette parité, parce que sinon, ce serait comme dans les années 50, où il y aurait vraiment une dominante masculine. Mais que ce soit aussi... strict, je sais pas, ça me dérange un peu parce que du coup on oublie aussi cette question de mérite et de qui passe un peu
un peu à la trappe. Donc c'est mitigé, quoi. Ouais. Tu te dis que c'est nécessaire, mais en même temps tu penses pas que ce soit forcément la bonne solution.
Et puis ça dépend dans quel contexte aussi, par exemple un contexte de festival, par exemple quand on impose ce système de quotas de 50-50. En festival, c'est compliqué parce que... Et après, parce qu'il y a des critiques sur le fait qu'il y ait trop de films faits par des hommes qui sont primés. Et c'est vrai qu'il y a des fois où ça choque quand tu vois qu'aux Oscars, c'est que des hommes blancs qui ont été primés. C'est dérangeant et c'est pas normal. Mais d'un autre côté, tu te dis, est-ce qu'on va forcément primer une femme juste parce que c'est une femme et pas parce que... c'est là que la question se pose et... Je sais pas, la limite, elle est...
Tu vois, moi, je te soumets un truc, là, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, et en même temps, tu vois, il y a toujours ce truc de dire quelle légitimité tu as, toi, homme qui est plutôt, entre guillemets, normal, même si, bon, j'ai quand même mes différences, mais, je veux dire, de prime abord, je suis un homme blanc, tu vois, jeune, valide, tu vois, je veux dire, j'ai pas de grosses difficultés, on pourrait dire, quoi. En tout cas, quand on me voit... Et en fait, moi, je te le dis honnêtement, je le dis ouvertement, je suis contre les quotas totalement, tu vois. J'ai pas de demi-mesure, je suis contre. Et je suis contre pour la seule et unique raison que je pense qu'il faut penser à une anonymisation des projets. C'est-à-dire que, effectivement, quand le film est sorti, je parle surtout au niveau des financements.
Ouais.
Parce que la réalité, c'est que si tu veux faire un film, il faut que tu aies des financements. Parce que on parle, les films qui sont vus, c'est des films qui ont des budgets, qui passent par des appels de financement, tout ça, et qui effectivement sont souvent les plus produits, c'est des hommes. Tu vois. Mais si tu fais un appel à projet, où tu envoies ton projet de manière anonyme, c'est-à-dire que je ne veux pas savoir ton casting, je ne veux pas savoir qui le réalise, je ne veux pas savoir qui le produit. C'est-à-dire que ce soit une équipe entièrement d'hommes, entièrement de femmes, j'en ai rien à foutre. Je reçois un projet, je lis un projet, je suis lecteur, et je me dis, ce projet-là, il a un intérêt pour notre société, ou il est extrêmement bien écrit, et là, tu le produis. Et après, si c'est des équipes d'hommes, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense, alors c'est peut-être infaisable, hein, j'en sais rien, mais dans l'idée, je me dis, c'est ridicule, et c'est amoindrir les femmes que de dire qu'elles aient besoin d'un quota pour faire des pour être vu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut tu as 100 projets à sélectionner, tu en reçois 1000, tu les lis et tu sélectionnes les 100 meilleurs. De se dire que un film d'homme ne sera pas produit parce que il fallait 50% de femmes, 50% d'hommes, et tu dis mais c'est bête, peut-être que ce projet aurait fait tellement de bien aux femmes par exemple, tu vois. Parce que tu comprends, c'est réduire la personne au fait qu'elle soit une femme. Je veux dire non. Ou un homme, au fait qu'il soit un homme.
Ouais.
Ça peut être un réalisateur homme et il peut s'entourer que d'une équipe féminine, par exemple. Tu vois, ça arrive, il y a des gens. Enfin,
ouais, bien sûr.
Et je trouve que c'est dangereux, tu vois, d'en arriver au fait d'opposer les deux. Et on va me dire, oui, mais parce que pendant tant d'années, il y a eu beaucoup plus d'hommes et tout ça. Ça, je suis d'accord, tu vois. Mais le passé, moi, je peux plus travailler dessus, tu vois. Par contre, le futur, on peut se dire, effectivement, moi, je reçois un projet, s'il est produit par Sophia. Je vais pas dire, ah maintenant c'est une femme productrice, laisse tomber, c'est la galère. Alors ça, c'est dangereux. Mais le fait que ce soit produit par Sophia ou bien Martin, personnellement, moi j'en ai rien à foutre. S'il est bien produit et que le projet est nécessaire pour notre société, go ahead. Même si c'est que des hommes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, ça
voudrait dire s'empêcher de faire certains films parce qu'ils sont pas forcément faits par des femmes, tu vois. Et c'est tellement dommage. Et je pense, et c'est Berko qui disait ça, Elle est d'accord avec ce que je dis, elle trouve ça absurde parce qu'elle se dit mais non, et tu vois, c'est-à-dire quand tu dis ça, tu dis merde, faut que je fasse attention parce que tu peux paraître pour un gros connard, tu vois, qui dit ouais mais tu veux rien que change. Si, il faut que ça change, mais parce que c'est toujours bien sûr les mêmes producteurs, les mêmes machins, il y a des gens qui sont trop publicités, à qui on donne trop des subventions facilement et tout ça, ça je suis d'accord, mais il faut repenser à mon avis, il y a vraiment un système à repenser, tu vois. Et peut-être faire des festivals féminins, tu vois, par exemple. Ça peut être intéressant. Il y en a.
Je crois qu'il y en a.
Tu vois, faire un truc uniquement féminin, ça ne me choquerait même pas de se dire, voilà, on fait une semaine du cinéma de la femme, par exemple. Et c'est que des réalisatrices qui présentent des films et tout ça. Ça peut très bien se faire, tu vois. Pourquoi pas, tu vois, s'il faut mettre en avant des films de femmes, je suis d'accord, mais pour moi, rien que le terme
du coup,
de...
ça me gêne plus parce que ça, ça le met dans une catégorie, tu vois.
Mais c'est ça que je te dis, en le disant, je te dis, rien que de dire film de femme, c'est quoi un film de femme?
Bah ouais, c'est ça.
On fait des films, tu vois. Moi, quand je sers une metteur en scène ou que ce soit un homme ou une femme, ça change pas mon métier de comédien, et j'espère que les gens qui viennent le voir ne s'attendent pas à voir une pièce ou un film de femme ou d'homme. C'est-à-dire que c'est une vision sur le monde.
Ouais, bien sûr.
T'es d'accord?
Non, mais je comprends totalement. Ensuite, après, le système de quotas, par rapport aux films produits, il n'est pas aussi rigide que ça.
D'accord.
Du coup, en vrai, il n'y a pas des films d'hommes qui sont exclus parce qu'ils sont des hommes. C'est
d'accord.
Pas à ce point. C'est plutôt dans les festivals, je trouve, où ça pose plus de problèmes. Mais pour ce qui est du financement, comme en plus, c'est des financements qui réunissent pas mal de partenaires, en fait, t'es obligé d'avoir des chaînes télé, d'avoir énormément d'actionnaires qui financent le film, bah finalement, c'est pas forcément le genre qui joue, tu vois.
D'accord.
Donc ça, je pense que c'est quand même encore assez flexible. Et système d'anonymat, en soi, c'est intéressant. Mais du coup, je pense qu'il y a certaines limites dans le sens où, par exemple, on saurait pas qu'est-ce qu'a fait le cinéaste avant. Oui, comment c'est ça. Savoir
Le danger, alors je me dis, c'est peut-être, tu vois, surtout pour les scénarios, je me dis, les aides au scénario, tout ça, parce que là, je me dis peut-être que, parce que c'est pour le prémisse d'un film, c'est quand même le scénar, tu vois. Donc je me dis là, ça, en tout cas, au tout petit point du début, tu vois, je me dis, ce serait peut-être intéressant. Après, effectivement, je veux dire. Lâcher je sais pas, lâcher 400 000 euros à un mec, enfin, tu sais pas qui.
Oui, parce que parfois il y a des scénarios super, mais tu sais pas
ce
que
ça. Et la réalisation, c'est catastrophique, ouais, je suis d'accord.
C'est compliqué en fait de trouver un juste milieu, ouais. Il y aurait plein de possibilités, plein d'options. Donc, ouais, il y a encore du travail là-dessus.
Tu y penses, toi, en tant que productrice, au fait d'être une femme, ou honnêtement, pas du tout tu...
Non, franchement, pas du tout.
Pour l'instant, t'as pas rencontré de difficultés, quoi.
Non. Jusqu'à maintenant, ça m'inquiète pas, et puis je vois que le secteur évolue et.
Ça te rassure.
Ça me fait pas peur, ouais. Enfin, vraiment, jusque-là, j'ai jamais eu peur de ça, de devoir m'imposer face à un monde de requins.
Ça t'est pas arrivé.
Non.
Mais en tout cas, je te souhaite que ça ne t'arrive
non,
pas.
Non, mais.
On sera là pour te soutenir dans tous les cas, parce qu'il n'y a pas que des connards, hein, y a aussi des gens qui sont là pour soutenir les autres. Et une petite question aussi, toi, dans l'avenir. J'espère que tu produiras des films. Tu sais quel film tu as envie de produire, ou ça reste encore
Non, j'ai une idée de film. Enfin, j'ai envie de faire des films. Enfin, c'est compliqué parce que du coup, il y a plein de films différents qui m'intéressent. En ce moment, par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'animation. J'aime bien l'animation combinée avec la prise de vue réelle, par exemple. Des films assez différents, même des documentaires d'animation. Enfin, qui essayent des choses différentes, qui mélangent des genres. Qui mélange des techniques aussi.
Qui soit innovant, quoi.
Ouais, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup... Enfin, qui parle de thèmes sociaux, sans pour autant être des films sociaux. Donc, j'aime beaucoup les films psychologiques, en fait.
Est-ce qu'il y a un film récemment que t'as vu et que tu t'es dit, putain, ça, je rêverais de l'avoir produit?
Le dernier film qui m'a fait ça, vraiment... Enfin, c'était plutôt en 2018, mais c'était Burning, de Lee Chang-dong.
Ouais.
Que j'ai adoré. Enfin, je suis fan de cinéma sud-coréen et je trouve que, par exemple, eux osent beaucoup plus de choses. Et ça, par exemple...
Il y a moins de codes. Enfin, je sais pas s'il y a moins de codes. En tout cas, ils font peut-être plus fi des codes.
C'est très psychologique et c'est très attaché à leur territoire et à leur histoire et à leur mémoire. Et je trouve ça super intéressant, le travail qu'ils font sur la mémoire collective du pays et les personnages qu'ils mettent en scène, en fait. C'est hyper impressionnant. Donc les films comme ça, j'aime beaucoup le cinéma indépendant américain aussi, les films d'Harmony Korine par exemple.
Que je connais pas.
Qui a fait Spring Breakers et qui a fait Gumo.
Je prenne des notes. T'as vu le film Me and I and Everyone We Know?
Non.
T'as pas
je
vu
pas.
Tu iras regarder, je connais c'est pas le réal, je suis très mauvais avec les noms, mais Me and You and Everyone We Know. Nouvelle, un peu style nouvelle vague américaine, indé, enfin genre Hollywood, tu vois, mais rien que, tu sais, moi j'aime beaucoup les scènes d'intro, c'est des trucs comme au théâtre, tu vois, les scènes d'expo, je suis comme, waouh, tu comprends si un film va soit te rendre fou, soit tu accroches pas. Enfin, moi, généralement, je le sais dès le début. Je suis comme, ah, ok, ça va être dur, ça va être long. Des fois, je me trompe.
Ouais.
Mais tu vois, tu regardes juste au moins la scène d'intro de ce film, tu vas être comme, ok, ouais, il se passe des trucs, c'est assez bien fait. Et du coup, oui, il y a une, peut-être la dernière, on verra si on part encore. On a encore un peu de temps, mais c'est bon, un petit peu, pas beaucoup. Est-ce que, en tant que, quand on produit un film, en fait, je parle souvent, j'avais envie de faire un audio sur la responsabilité du créateur d'image. Et seul, c'est compliqué pour moi, tu vois, parce qu'effectivement, je me dis, c'est très dur, et je me dis, peut-être en échangeant avec toi, j'aurais plus d'idées. Je me dis, quand on crée des images, moi, que ce soit quand je fasse une mise en scène, ou là, je suis en train d'écrire un cours que je vais réaliser, et je me dis, j'ai une responsabilité quant aux images que je vais projeter dans l'imaginaire des gens qui vont me voir.
Ouais.
Ok, pour te donner un exemple précis, récemment là, je vais dans des festoches de courts métrages, et souvent il y a la sexualisation du corps mineur, tu vois. Très très souvent, enfin je sais pas pourquoi, je tombe sur des films comme ça, peut-être pour me remettre en question. Et moi, je me pose la question d'un réal et d'un producteur majeur qui produisent ce type de film-là, tu vois, où effectivement, c'est y a vraiment la sexualisation du corps mineur, tu vois. Mmh. C'est pas on voit deux jeunes faire l'amour et on est extérieur. C'est vraiment des plans très rapprochés de peau, tout un truc sur la tension sexuelle entre deux mineurs, tout ça. Et je me dis, est-ce que tu penses qu'au nom de l'art et du cinéma, on peut tout montrer et on a, est-ce qu'on a une responsabilité ou pas en tant que créateur d'image ou en tant que producteur d'image, tu vois ?
Ouais, pour moi, il y en a une, ouais, forcément.
Ouais.
Ouais, complètement. Bah, par exemple, j'ai un exemple sur ça. Le film justement sur lequel tu as tes silhouettes, là, que j'ai fait mon premier film. Ouais. Je t'avais envoyé le scénario, je sais pas si tu as pu le lire. Oui. Mais dedans, tu vois qu'il y a une scène de viol. Mm-hmm. Et y a eu des gros débats sur ça parce qu'au début de la scène, c'est elle qui entraîne le mec dans le lit.
Bien sûr.
Et qui veut faire l'amour avec lui. Pas forcément parce qu'elle a envie de lui, mais parce que ça se passe dans une télé-réalité. Donc. Voilà, ça, c'est pour lui donner une image.
C'était pour monter l'audience et tout ça.
Voilà, donc elle est partante et c'est elle qui l'entraîne. Sauf que pendant la scène, elle a mal. Et donc elle lui dit arrête, sauf que lui n'arrête pas. Et du coup, il y a une limite qui est franchie. Mais pour beaucoup de gens, malheureusement...
Elle n'est pas claire.
C'est pas clair. Et que dire arrête, ça ne suffit pas forcément.
Bien sûr.
Et du coup, tout l'enjeu, c'était justement comment tu montres, comment tu mets en scène une limite qui est franchie, alors que pourtant... C'est pas forcément évident dans ce qui se passe entre le début de la scène et c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout en ce moment. Donc, comment est-ce que tu mets en scène ça et que tu fais comprendre au spectateur que c'est trop. Donc, à partir de là, t'as une responsabilité parce qu'il suffit d'une erreur de mise en scène.
Et on pense que c'est correct.
Bien sûr. Donc, il y a plein de films comme ça.
Ça me rassure de t'entendre dire ça. Parce que tu vois, moi, j'ai eu un débat, je ne vais pas citer le mec parce que je pense qu'il a mal vécu le truc, tu vois, parce que c'était la première fois qu'il présentait son film et tout. Film extraordinaire, très bien, tu vois. C'est l'histoire c'est un jeune, c'est un truc homo entre un coach de sport pédophile, tu vois, et un jeune. Et en gros le jeune essaye de tuer le mec mais au final à la fin tu comprends qu'il a envie de coucher avec tu vois l'espèce de truc quoi. Et c'est une fin ouverte tu vois et j'ai dit je suis très mal à l'aise en fait parce que on parle quand même d'un gars qui est pédophile en fait tu vois. Et donc c'est quand même un acte et je lui dis quand par exemple vous les filmez dans les vestiaires il me fait oui mais moi c'est comme un docu. J'ai dit, maintenant, je suis désolé, des ralentis de la musique électronique avec un plan subjectif sur de l'eau qui coule sur un téton, c'est plus du docu, tu vois. Ça aurait été filmé avec le téléphone du gars, je me disais, ok, il y a un malaise, on est le gars. Là, c'est un point de vue de réalisateur, tu comprends. Et on avait ce débat-là, il me dit, mais vous êtes puritain, moi. Mais j'ai dit, non, pas du tout. Je vous dis, en tout cas, c'est mon avis. Et je suis content que tu partages. Je me dis, peut-être que tes films auront cette truc. Il faut faire très attention, en fait, à ne pas légitimiser un acte qui... Alors là, pour le coup, les deux, finalement, sont consentants. Même si c'est illégal, ils le sont. Mais n'empêche que... Enfin, tu vois, pour quelqu'un qui pourrait être un peu dérangé, ça fait un peu... Bon, en fait, au final, le petit gars, il avait envie, tu vois. Donc ça... Et je lui dis, vous avez quand même une responsabilité.
Ouais.
Donc après, à un débat, il faut assumer de dire non... À ce moment-là, j'ai fait ce plan-là pour vous créer un malaise et je coupe tout de suite après avec autre chose, ce qui n'est pas le cas dans son film, tu vois. Mais tu peux jouer sur des cordes sensibles, je suis d'accord, il faut parler de tout. On est d'accord qu'en fait, il ne faut pas se censurer. Tu es d'accord avec ce point-là ?
Non, totalement.
Mais en tout cas, faire très attention quand on touche à des cordes sensibles de ne pas blesser ou de ne pas encourager...
Quel point de vue tu choisis et qu'est-ce que tu veux vraiment montrer ?
Il faut
après,
être
si
franc,
c'est ton
quoi.
Choix de montrer ça, et écoute... ton problème, mais il faut être sûr de ce que tu veux montrer et être sûr que c'est ce que tu vas montrer.
Et en tant que productrice, je pense, quand tu vois, si moi je viens à produire un film, s'il y a des choix que le réalisateur fait dans lesquels je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas clairs, alors s'ils sont légitimes et qu'ils sont motivés, moi je trouve que tout est possible. Par contre, si ce n'est pas clair et que tu veux juste filmer parce que tu trouves ça beau, mais que tu touches à des sujets aussi sensibles, moi, je pense que le rôle d'un producteur, c'est aussi de dire, écoute, là, moi, j'ai mon veto, choisis. ce camp-là ou ce camp-là.
Ouais.
Après, on va te suivre. Mais là, c'est trop flou. Mmh. T'es d'accord avec ça?
Ouais, totalement. Et du coup, le film dont tu me parles, ça me fait penser à Mysterious Skin. Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais.
C'est un film de Greg Araki.
Ouais.
Et justement, c'est sur l'histoire d'un coach sportif qui abuse de plusieurs enfants. C'est un film assez vu maintenant. C'était un des premiers films de... Comment il s'appelle? Pas Edward Norton, mais... Ah, j'ai oublié son nom. Gordon Levitt.
Oui.
C'était Gordon Levitt quand il était jeune, un de ses premiers rôles, et qui joue un des enfants dont le prof de sport a abusé. Et donc, il y a deux enfants dont il a abusé. Et t'en as un, en fait, ça retrace le parcours des deux maintenant qu'ils sont adolescents et qu'ils ont grandi. T'en as un qui est persuadé d'avoir été kidnappé par des extraterrestres pendant toute son enfance.
Donc
et qui a totalement... Ouais, c'est ça, qui a tout oublié et qui a totalement renié le souvenir. Et t'as l'autre qui est devenu prostituée. Et qui vend son corps et qui couche, qui vend son corps à des hommes. Et donc, t'as le parcours des deux en parallèle et les deux se rencontrent ensuite.
Mmh.
Et donc, t'as le prostitué qui remémore tout à l'autre. Et donc, c'est une discussion entre les deux. Donc, t'as ce questionnement sur qu'est-ce que ça peut devenir. T'as l'impression qu'il y en a un qui a adoré cette expérience et qu'il a un super souvenir et t'as l'impression qu'il y en a un autre.
Mais du coup, est-ce que c'est bien fait et que ça te crée un malaise?
C'est super bien fait.
Ah, voilà.
C'est super bien fait, c'est cru, mais c'est
ça,
jamais
c'est
jamais tendancieux, enfin c'est
t'as pas de
toujours
doute.
Juste en fait dans ce qu'il dit et c'est un super film, vraiment c'est un super film.
Bien, vous avez plein de recommandations si vous écoutez ce podcast, il faut aller voir tous les films dont on a parlé. Non mais écoute, je suis hyper content. J'ai abordé tous les points que je voulais aborder avec toi. Non, puis c'est parce que je me dis, tu vois, enfin, je te le souhaite en tout cas, si t'es si tu produis des films et tout ça, je me dis, et on se connaît, donc voilà, quand je vois ce genre de film-là où effectivement je me dis, mais putain, mais vous avez des subventions, enfin, tu vois, enfin, subvention, c'est pas le bon terme, mais vous êtes produit, vous êtes vu, et vous vous rendez même pas compte qu'en fait, il y a une responsabilité aussi, tu vois, et c'est un milieu magnifique où on se rencontre, où on a le droit de parler de tous les sujets, tu vois, enfin en tout cas on essaie. Mais après, il y a aussi, c'est pas juste ton kiff et je filme des trucs et puis bon, bah on verra, tu vois. Moi, je suis pas là pour donner mon avis, bah, je pense que si, tu vois. C'est un acte un peu militant, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Même si tu fais une comédie,
quelque chose,
il
message
se passe
à
un
quelqu'un.
Truc.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que t'as un message à passer? Pour finir, ah non, non, on va faire un. Je te pose une question. Je vais te poser deux dernières questions, mais très courtes.
Ok.
On sort du sujet cinéma. J'espère qu'on vous a pas saoulé. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Ça t'a
moi
plu
aussi.
On a bien discuté. Je te pose deux questions. Si on échange les rôles, si tu devais interviewer quelqu'un aujourd'hui, qui ce serait? Il peut être mort, vivant. le premier truc qui te vient en tête,
ce serait un photographe de guerre.
T'en as en tête ou...
J'en ai un en tête, mais en fait que je connais.
D'accord.
Parce que j'ai fait un stage avec lui, mais qu'ensuite on s'est un peu perdu de vue. C'est Éric Bouvet.
Donc Éric Bouvet, vous êtes convié à une. Mais non, mais ça serait génial.
Non, mais c'est, voilà, un ancien reporter de guerre qui a travaillé pour des grands magazines type Gamma, Madame et tout ça à l'époque. Et qui maintenant fait un peu moins de reportages et aussi des. Enfin, toutes sortes de choses quoi.
Et t'aimerais pouvoir parler avec lui.
Ça me fascine en fait, ce métier m'a toujours fasciné. Donc...
Très bien, merci pour cette réponse. Et la dernière, on finira avec ça, d'habitude je commence avec ça. Mais comme je sais que t'as écouté le podcast mais t'as pas entendu les entrevues longues, donc je vais te la poser quand même. J'avais peur que tu l'aies entendu, je me suis dit elle va avoir préparé un truc. Si on n'était pas là en train de finir cet audio ensemble et que tu pouvais être où tu veux, c'est des questions tu vois d'imaginaire, et si tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Mais si on n'était pas là en train de faire ça, qu'est-ce que tu ferais?
Dans une autre vie, tu veux dire? Ou...
Bah non, juste là tout de suite.
Là, comme ça.
Là tout de suite, tu serais en train de faire quoi si tu avais la possibilité de faire ce que tu voulais?
Je serais sûrement en train d'écrire quelque chose, je pense.
Ouais.
Dans un endroit hyper calme, éloigné de tout.
Loin. Un peu comme ici, au final. Ah non, pas éloigné de tout, on est quand même dans le
centre
de
Paris.
Ouais,
loin, dans un super beau paysage.
Et
j'étais en train de penser à des...
Écrire?
Ouais, à écrire un film, quoi.
Écrire un film?
Ouais.
On peut te souhaiter en fait de faire plein de films quoi. Non?
Ouais.
On va se souhaiter mutuellement de faire plein de films.
Bah ouais, toi aussi. Hein.
Ouais, mais on croise les doigts. Non, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Prie.
Ça m'a beaucoup touché et je suis contente d'avoir rencontré enfin.
Ouais.
En tout cas, merci.
Ça me fait plaisir.
Super.
Nous sommes le mercredi 27 mars 2019, il est 15h29 et ceci est la fin de cet audio. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.